Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h01 sur RMC, RMC Story, c'est la dernière partie d'Estelle Midi. On est avec vous jusqu'à 15h en compagnie de Rémi Barré, du journaliste de Marianne Perico-Légas, de l'ancienne avocate Yael Mellul et de la militante associative Mathilde Himmer. On est avec vous bien sûr au 3216 pour répondre à cette question. Faut-il réquisitionner les logements libres pour venir en aide aux mal logés en France? On en parle dans un instant. 14h30, ce sera RMC s'engage pour vous. On va revenir sur l'affaire des victimes de l'amiante qui n'arrivent pas à partir en prêt. Retraite, on vous en a parlé il y a quelques semaines. Il y a du nouveau dans ce dossier. Il y aura bien sûr les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et puis Rémi, on vous fait gagner une très belle semaine de vacances dans l'émission.
Nous vous offrons vos futures vacances à la mer, à la montagne ou à la campagne. Une semaine chez Bellambra Club, en famille ou entre amis. Pour tenter votre chance, vous envoyez le mot vacances par SMS au 73216. Vacances par SMS au 73216.
RMC Estelle Midi.
14h02 sur AMC et on va tout de suite s'intéresser à la prise de position du jour. C'est celle d'Olivier Klein, le ministre du Logement, qui a déclaré hier qu'il était favorable à la réquisition de logements vacants. On compte actuellement 330 000 SDF en France, 4 millions de mal logés. Rémi, est-ce que l'État a déjà réquisitionné des logements?
Oui, pas plus tard que le mois dernier, un bâtiment du domaine de Grignon, c'était même il y a deux mois, puisque c'était en décembre, un domaine donc qui situait à Tiverval-Grignon, dans les Yvelines, a été réquisitionné par l'État dans le cadre du plan Grand Froid déclenché pour héberger des familles sans abri. Ce bâtiment, il était inoccupé depuis le départ des étudiants d'Agro Pritech en juin dernier. Le 17 décembre dernier, d'ailleurs, Olivier Klein s'est rendu lui-même sur place et s'est déclaré fier de cette réquisition. Géré par Emmaüs Solidarité, ce centre d'hébergement d'urgence temporaire accueillait alors 62 personnes, 25 adultes et 37 enfants venus de Paris et des Yvelines. Alors pourquoi ne pas généraliser ce type de réquisition? Olivier Klein, le même, l'explique, parce que c'est complexe et coûteux. Reste la réalité, d'après la Fondation Abbé Pierre, il y a aujourd'hui 200 000 personnes en hébergement d'urgence en France, 110 000 migrants en centre d'accueil ou en hébergement pour demandeurs d'asile, auxquels il faut ajouter 27 000 personnes sans abri. Le mal logement, c'est le logement insalubre. Ouais. Il concerne, quant à lui, plus de 4 millions de personnes en France. Et de l'autre côté, de ces chiffres qui parlent de ces personnes en souffrance, il y a la réalité du logement. La France compte plus d'un million de logements vacants depuis au moins 2 ans dans le parc privé. Il y en aura bientôt plus de 3 millions avec l'interdiction progressive à la location des passoires thermiques d'ici au 1er janvier 2028.
Perico-Légas, faut-il réquisitionner les logements vides en France pour aider les mal logés?
Je n'oublierai jamais cette scène à la télévision, c'était sur la deuxième chaîne. Simone Veil, ministre des Affaires sociales à côté de l'abbé Pierre, ils étaient ensemble et Simone Veil avait commencé à évoquer l'idée d'une réquisition des logements vacants. Et l'abbé Pierre dit, absolument, je suis d'accord, avenue Foch, il y a plein de grands appartements, on pourrait les prendre pour donner... Et là, il y a Simone Veil qui dit, oui, alors peut-être pas exactement avenue Foch tout de suite, mais on va peut-être trouver une solution entre-temps. On la sent extrêmement coincée aux entournures. Bon, le problème est là. Est-ce qu'il y a des logements qui ont vocation à être réquisitionnés pour être distribués? Est-ce qu'on peut partir du principe qu'il y a des gens qui, pour des raisons de spéculation ou par confort, ne veulent pas libérer leur logement ou les louer? Et là, effectivement, il y a un problème politique. Alors, est-ce qu'il y a une garantie pour les propriétaires qui sont réquisitionnés de récupérer leurs biens? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui aujourd'hui abusent? Ben, ils stockent. Il y a des millions d'hectares ou des centaines de milliers d'hectares ou des milliers d'hectares d'appartements vacants qui pourraient être disponibles. Voilà, il faut voir cas par cas, statut par statut, situation par situation. C'est sûr que ça peut pas durer. Est-ce que les municipalités, les collectivités territoriales qui sont propriétaires de locaux et d'espaces font tous et toutes l'effort de mettre ces espaces à disposition. Je pense qu'il mérite une grosse commission d'enquête pour regarder de faire l'inventaire des logements disponibles. Je pense qu'on aurait de grandes nouvelles et de grosses surprises. Voilà.
Et il faut faire évidemment, Mathilde, le distinguo entre un appartement privé oui. et effectivement des locaux qui sont non utilisés, ou alors il faut tout réquisitionner.
Moi, je pense que la question qui est posée, c'est celle de la propriété. Quand on regarde notre code civil, là, si on va dans le droit deux secondes, l'article 544 du code civil, il affirme que la propriété, aussi absolue soit-elle, elle peut être limitée en cas de nécessité. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est nécessaire de limiter le droit de propriété d'un propriétaire qui fait défaut, en ce sens où il laisse à l'abandon un de ses biens, alors que des personnes dorment dans la rue? Moi, je pense que oui, mais qu'il y a avant ça un certain nombre de processus qui peuvent être mis en place. On peut inciter les gens et on peut aussi avoir un bâton, c'est-à-dire de taxer les gens quand ils ne font pas, ou d'avoir des pénalités. Donc il y a un peu un gradient des choses qui doivent être faites. Moi, je suis assez d'accord avec l'inventaire de Perico. Je pense qu'on aurait des énormes surprises. Moi qui vis en zone rurale, il y a plein de logements où on ne sait plus qui est là, qui habite là. La question qui se pose, c'est il y a une partie de ces logements qui ne sont pas ou peu habitables. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ce n'est pas l'occasion de lancer
les réhabiliter
et du coup de pouvoir avoir des logements pour un certain nombre de personnes? Enfin, 4
millions de personnes. Tu ne confisques pas tout de suite la maison de Bernard Arnault en campagne. Tu lui laisses.
On va commencer par celle-là.
Non, mais au-delà de cette question du mal logement, il y a une pression sur le logement en général. Et quand on voit qu'on a un quart des Français qui ont 70% quasiment de l'ensemble du parc immobilier, je trouve que ça pose beaucoup de questions sur, à nouveau, la répartition des richesses.
Yael Mellul, c'est un débat compliqué, évidemment, parce que là, je le vois, on a pas mal d'auditeurs qui nous appellent et qui disent « mon logement est vide, je vois pas pourquoi on le réquisitionnerait ». Ça pose effectivement, comme le dit Mathilde, le problème de la propriété. Vous avez acheté un appartement, par exemple. Si vous avez envie de le laisser vide, rien ne vous en empêche.
C'est votre droit le plus absolu. À partir du moment où on est propriétaire, on fait de son bien absolument ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, si vous voulez, on est face à une réalité qui est absolument catastrophique. Les chiffres sont... quand on lit le rapport de la Fondation Abbé Pierre, on ne peut être que bouleversé. Alors Olivier Klein, d'un côté, il dit c'est pas qu'une question de chiffres. C'est aussi une question de chiffres, pour le coup, parce que voilà, il y a 3 millions de logements vacants et il y a 4 millions de mal logés.
Bien sûr.
Voilà. Donc évidemment que dans ces 3 millions de logements vacants, on va pas réquisitionner la totalité. Il faut évidemment faire un inventaire. Il faut savoir s'il y a pas aussi des logements qui sont laissés à l'abandon. Moi, il y a un chiffre dans ce rapport de la Fondation Abbé Pierre qui m'a particulièrement bouleversée. C'est le chiffre des femmes qui sont victimes des violences conjugales.
Oui.
Voilà, on sait qu'il y a 210 000 femmes qui sont victimes des violences conjugales chaque année en France. Il y a 40% d'entre elles qui sont sans solution de logement et d'hébergement. D'accord. On sait qu'il faudrait 10 à 15 000 places d'hébergement pour ces femmes. Et qu'aujourd'hui, on en a en urgence.
C'est peut-être à l'État de les créer plutôt que d'aller réquisitionner des appartements.
Oui, mais si vous voulez, à un moment donné, ça suffit d'attendre en réalité quand il ne se passe rien. Voilà. Cette situation d'urgence absolue pour les femmes qui sont victimes de violences avec des gamins et qui deviennent... Hélas, pour beaucoup trop d'entre elles, sans domicile fixe, sans abri, voilà, il leur faut des solutions d'urgence. Aujourd'hui, on en a 10 000 qui sont en existence.
Pour vous, on réquisitionne?
Oui, face à des situations d'extrême.
Même des appartements privés?
Même des appartements privés, peut-être. Il faut évidemment que ce soit encadré dans des protocoles.
Voir quel appartement privé.
Voilà, dans des protocoles extrêmement stricts. Ce soit pas
indéfiniment.
C'est violent. Hein.
C'est violent,
que ce soit, oui,
en termes
bien
de droit,
sûr.
C'est violent.
Oui,
c'est extrêmement violent. C'est complètement dérogatoire. Et c'est la raison pour laquelle il faut que ce soit extrêmement encadré pour des durées limitées. Parce qu'on peut pas se substituer non plus éternellement aux failles, aux carences de l'État.
C'est pour ça que Olivier Klein, le ministre du Logement, se déclare ouvert à l'idée, est venu, je le disais tout à l'heure, au mois de décembre, s'est déplacé là dans les Yvelines, s'est dit fier de cette réquisition du domaine dont on parlait à l'instant.
Forcément.
Mais en même temps, il dit, je suis pour, enfin, je suis pas opposé, mais c'est complexe et coûteux.
Ah bah bien sûr. C'est complexe et coûteux et on vient empiéter sur la propriété privée. Mais le problème, c'est que, je vais encore parler de Macron et de ses promesses qui sont pas tenues. On a le souvenir quand même en 2017.
Il est pas le premier.
Oui, mais là, si vous voulez, on a des chiffres qui ont été multipliés par deux en 10 ans. Et les 6 ans de sa présidence, bah, ça rentre dans les 10 ans. Voilà. Et en 2017, on a Emmanuel Macron qui nous a promis, on s'en souvient tous, qu'il n'y aurait plus de femmes et d'hommes qui seraient dans les rues. On se souvient aussi de ce plan com absolument, mais alors vraiment, mais pour moi, mais d'une indécence absolue de 2019, où il y avait Emmanuel Macron qui était en maraude, et on le voyait s'accroupir devant les tentes en espèce en feignant l'empathie. Ça c'est mon appréciation.
Oui.
C'est mon appréciation. Et aujourd'hui, on a les chiffres de la Fondation Abbé Pierre qui sont absolument catastrophiques et qui étrient l'action gouvernementale.
C'est aussi à l'État de construire les places d'hébergement.
Et qui dit en plus absolument que c'est à l'État. Bah oui. Et la Fondation Abbé Pierre dit l'année 2022, c'est une année blanche. Voilà, il ne s'est rien passé d'un point de vue du gouvernement.
Et puis surtout, ce chiffre, rapport de la Pierre, ce chiffre de mal logé, il empire d'année en année.
Hein. D'année en année.
Il n'y a pas absolument de mieux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, tiens, ça va aller mieux l'année prochaine. Bah,
non,
ça va aller
de pire en pire.
Les Restos du Cœur, on est bien d'accord. Hélène nous appelle de Nice. Hélène, elle est psychologue et elle voulait réagir. Donc sur ce dossier, bonjour Hélène.
Oui, bonjour Estelle, bonjour l'équipe.
Et
bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Vous n'êtes pas trop pour la réquisition des logements?
Ah non, pas du tout. Je dois dire que je ne comprends pas que l'on puisse penser à aller réquisitionner un bien privé pour aller loger des personnes qui sont certes en difficulté, mais pourquoi devrais-je avoir à payer pour quelqu'un d'autre? Je ne comprends pas, je paye suffisamment d'impôts. Les impôts servent entre autres à cela.
Mais c'est vrai que ça s'entend également,
mais en même temps,
ce que dit Hélène.
Mais pourquoi avoir des logements privés? C'est de la spéculation donc immobilière.
Bah, t'es pas propriétaire de ton bien,
Si, non, je parle de vide, un truc vide qu'on a
depuis... Parce que tu peux avoir une résidence secondaire.
Non,
résidence secondaire.
Non, je fais pas allusion à ça du tout. Je fais allusion à... Mais on parle pas de la même chose. On parle de milliers de mètres carrés dans la ville de Paris qui appartiennent à des gens qui ont ça depuis 20 ans. C'est vide. Et voilà, ils gardent ça parce que c'est leur patrimoine.
D'accord, mais ils les ont payés.
Oui, mais là, ça pose un problème. Voilà.
Si tu achètes un pull et que tu le mets pas,
qu'ils les louent, on leur vole pas, on leur demande de le louer.
Mais sauf que. Alors, attendez.
Ah, bah oui, Hélène, ensuite, il va y avoir le problème de la location. Je suis d'accord, mais il faut trouver une solution.
Hélène va t'expliquer pourquoi elle loue pas. Hélène, vous aviez un bien à louer, c'est ça, à un moment?
Oui, j'avais un bien que j'ai loué à deux reprises. Lorsque le locataire est parti, évidemment, le dernier mois, il ne le paye pas. L'appartement a été dégradé, il a fallu le restaurer et le louer à nouveau. J'ai même eu la dernière qui était dans le même cas de figure. Hein, son compagnon, il y a eu une séparation, elle s'est retrouvée seule avec son enfant. Elle m'a même dit que l'assistance sociale lui avait dit de ne pas payer son loyer, que de toute façon la trêve hivernale faisait que je ne pouvais pas la mettre dehors. Ce qui est vrai, sauf que quand elle est finalement sortie, j'ai vendu l'appartement, il restait vide 8 mois et je ne réitérerai pas l'expérience.
Bah oui,
j'achèterai à l'étranger.
Ouais, mais on peut. C'est terrible ce que vous dites, Hélène, mais on peut évidemment comprendre.
Mais là, on est en train de tout confondre, je trouve. Quand on parle de réquisition, je vous explique pourquoi je dis ça. C'est pas du tout en l'encontre de ce que vous dites. On a 7,3 millions, c'est des chiffres BFM Business, hein. 7,3 millions de personnes qui possèdent plus de la moitié des logements du parc privé en France. C'est ça qui est pas normal. C'est que comme il y a une concentration de l'ensemble des logements dans quelques mains, derrière, ça crée une pression financière pour l'ensemble des autres. Ce qui est aussi ultra violent. C'est violent de réquisitionner.
Ce sont des entreprises dont on parle. Il y a des entreprises qui investissent.
J'ai fini. C'est violent de réquisitionner. C'est hyper violent aussi d'être à la rue. C'est hyper violent aussi de devoir choisir. Et en ce moment, il y a quand même de plus en plus de gens pour qui c'est le cas, entre devoir manger, devoir payer son électricité et devoir payer soit son loyer, soit le prêt immobilier qu'on a quand on a un bien. Donc ce qui n'est pas normal à la source, et la source du problème, j'en ai marre de mettre des pansements, la source du problème, c'est qu'on a une concentration de logements entre quelques-uns qui fait qu'il y a une augmentation des prix. Donc, la vraie bonne loi, à mon sens, avant de réquisitionner, qui peut rester une option, c'est aussi de dire peut-être qu'il y a un nombre de logements maximum par personne dans le pays. Qu'il n'y ait pas des multipropriétaires qui aient 5, 6, 7, 8, 9, 10 logements.
Alors, je vais donner
une autre solution. En fait, il faudrait aussi, quelque part, si l'État, par exemple, là, vous avez des mal logés, vous avez cette famille, tiens, dont parle Hélène. Est-ce que c'est pas à l'État, je veux dire, de garantir que le loyer sera payé? Parce qu'il y a, ça aussi. Le propriétaire aujourd'hui, souvent, il loue pas. Pourquoi? Parce qu'il se dit, si on me dégrade mon bien, je vais me retrouver tout seul à devoir payer la peinture, les travaux, les machins. Si l'État garantissait, je veux dire, au propriétaire, si l'État disait, bah tiens, vous, votre logement, il est neuf, on vous paye un loyer peut-être plus faible, mais on vous garantit que votre bien, quand on vous le rend, il est remis à neuf, en tout cas, il est dans l'état dans lequel vous l'avez laissé.
C'est une formule.
Et ben, je peux te dire que les gens, les propriétaires seraient beaucoup plus enclins à louer. Là, en fait, encore une fois, tu tapes sur les propriétaires.
Mais les propriétaires,
tu dis, bien sûr, il y a des propriétaires.
Ils ont besoin.
Et tu as raison de dire que la plupart des logements sont concentrés que dans quelques mains. Ok. Mais sauf que pour les propriétaires comme Hélène,
Hélène, elle est psychologue, mais on ne sait pas.
À l'État de garantir que ton bien sera rendu. Mais tu proposes de limiter.
Il y a des banques aussi maintenant qui font des garanties. Il y a des amis, voilà. C'est en train d'évoluer ça.
On parle de rassurer le propriétaire.
Exactement.
Et tu proposes de limiter.
Quand on te dit garantie par ta banque, c'est à rassurer.
Non, c'est pas la même chose. Et tu proposes de limiter le nombre de logements par possédant, par exemple. Et ça veut dire qu'on limite l'investissement locatif en France? On limite l'investissement immobilier?
Je dis juste qu'on limite par un nombre de logements par personne. Oui, c'est pas normal, il y a qu'à.
Mais c'est limiter un marché comme une part de notre économie.
Et ben les gens vont aller investir ailleurs. C'est ça le problème.
Vous allez investir ailleurs. Moi, je fais partie de cette génération qui n'arrive pas à accéder à la propriété. C'est injuste.
Oui, c'est
pourquoi est-ce que ce serait que les plus vieux qui pourraient avoir accès à la propriété? Un peu de répartition, de partage dans ce monde, ça nous ferait du bien à tous. Voilà ce que je dis, c'est simple.
En tout cas, merci beaucoup Hélène pour ce témoignage qui a beaucoup fait réagir sur le plateau. Notre invité sur ce débat, c'est Eddy Jacquemart, il est président de la Confédération Nationale du Logement. Bonjour Eddy.
Oui, bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec Olivier Klein, le ministre du Logement, qui dit que il faudrait peut-être réquisitionner des logements pour aider les mal logés en France?
Alors la réquisition, en fait, nous la CNL, on y est favorable à certaines conditions. Et oui, il a raison. Il est temps que aujourd'hui, on vit dans notre pays une alerte rouge sur le mal logement. D'ailleurs, cette semaine, j'étais aussi au rapport de la Fondation Abbé Pierre, et tous les ans, on nous dit la même chose. Sauf que cette année, c'est vraiment particulier. Il y a une situation explosive. Il y a des familles qui n'arrivent plus à payer, qu'elles soient locataires ou copropriétaires, accédant à propriété, elles n'arrivent plus à payer leurs charges courantes. Et du coup, on va vers des situations qui vont être très compliquées. Il y a des gens qui sont dehors, et j'entends ce que dit Hélène par rapport à son logement, etc. Mais ce qui est encore plus terrible, puisqu'on dit oui, c'est terrible, Hélène, son appartement, il a été dégradé, etc. Mais ce qui est encore plus terrible, c'est de devoir dormir dehors avec ses enfants.
Ça, mais on ne peut pas monter les Français les uns contre les autres, Eddy Jacquemart.
Donc aujourd'hui, la situation, elle est tellement grave que la réquisition, c'est pas une solution pérenne, la réquisition.
C'est ça,
l'hébergement. Donc la vraie solution, c'est la construction de logements publics, du logement social, du HLM. La CNL, d'ailleurs, elle préconise une construction de 250 000 logements par an. Ce n'est pas un chiffre qui est farfelu, puisque quand on a 2,3 millions de personnes qui attendent un logement social en France, vous calculez combien ça fera d'années, 10 ans, et puis on va résoudre la crise, la liste d'attente. Ça, c'est important. Il y a aussi des maires, moi je le dis, des maires qui ne construisent pas dans leur ville alors qu'ils sont obligés.
Ah mais là, faut les taxer plus sévèrement, mais c'est non, ça aussi, ils préfèrent payer une amende que de faire un HLM, mais taxer les plus durement.
Sévèrement. Un maire qui ne respecte pas la loi de la République, il doit être à terme inéligible.
Ah d'accord, inéligible. Okay. Oui, c'est aussi une solution. Ouais.
Attention à la non-artificialisation des sols, la loi qui est tombée.
Tout à fait.
Je suis élu municipal, je connais le problème. Ça va être un gros problème pour beaucoup de municipalités qui voudraient construire.
Qui font campagne électorale aussi sur le fait qu'ils ne vont pas construire de logements sociaux dans.
Absolument, absolument. On les connaît.
Ils devraient être
pas de pauvres chez moi.
Inéligibles. Ils ne respectent pas la loi de la République. Moi, si je conduis trop vite, eh bien, on va me retirer mon permis de conduire. Eh bien, un maire.
Alors, ils sont pénalisés quand même, je crois. hein.
Oui, évidemment, c'est pas eux personnellement.
Non, c'est la ville qui paye.
Ils ne sont pas personnellement pénalisés.
Non, bien sûr que
on parle souvent de Neuilly-sur-Seine, par exemple.
Ils payent des amendes avec l'argent des contribuables de leur ville. Alors, c'est pas être pénalisé, ça.
Je suis d'accord, mais là, de toute façon, la construction de logements, il se trouve que ça prend un peu de temps, et déjà que surtout qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le bâtiment. Donc, qu'est-ce qu'on fait là, aujourd'hui? Quand on parle de réquisition, est-ce qu'on réquisitionne des logements privés? Est-ce qu'on va d'abord sur, on va dire, des locaux voilà. d'État qui sont inutilisés? On fait quoi?
L'État, il doit montrer l'exemple. L'État, il a des tas de bâtiments qui sont pas occupés. Et je pense qu'il doit montrer l'exemple et qu'on doit réquisitionner en priorité les logements qui appartiennent à l'État ou aux collectivités. Évidemment, avant de passer à la réquisition du privé. Mais cette réquisition, pour moi, c'est le pansement qu'on met sur une plaie béante. C'est ça. Et la vraie solution... c'est de construire. Alors
de créer des logements, bien sûr.
Oui, et vous ne trouvez pas que construire à nouveau des logements, construire des logements, alors qu'à côté on a des logements vides pour certains,
il y a un problème environnemental.
Il faut certainement un peu des deux, mais je veux dire, il y a quand même un truc aberrant qu'on comprend tous là.
Il y a des trucs aberrants, d'accord, mais aussi faut savoir une chose, c'est que les réquisitions, par exemple, de locaux qui sont pas forcément adaptés pour habiter. Vous prenez des bureaux, bon, les gens qui doivent être hébergés dans des bureaux, on ne peut pas imaginer. À moins de transformer complètement les bureaux avec des douches et des sanitaires, etc.
Il y a des douches maintenant, c'est une obligation dans les entreprises.
Oui, mais il y a encore des bureaux où c'est pas forcément adapté. Donc ça veut dire que aujourd'hui la vraie solution, et ce gouvernement, et depuis 2017, on a un président de la République qui s'est attaqué violemment au logement social avec une ponction des bailleurs sociaux qui leur prive de leur capacité d'investissement. Ouais. Le gouvernement, il ne met plus un centime dans l'aide à la pierre. Et donc ça veut dire que c'est l'autofinancement des HLM qui va créer donc les logements sociaux de demain, avec aussi des prêts bancaires qui aujourd'hui, maintenant, les prêts bancaires sont en augmentation puisque indexés au livret A, donc ça augmente. Donc le gouvernement aujourd'hui, il a une responsabilité énorme dans la crise du logement actuelle.
Tout le monde est d'accord.
Actuelle, avec une baisse de la construction phénoménale, puisque Madame Wargon, en son temps, annonçait à un congrès HLM il y a 2 ans, on construira 250 000 logements sur 2 ans. On n'en est même pas à 90 000 agréments en 2022.
Oui, alors il y a aussi le fait que aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher qu'il y a 2 ans de construire des logements parce qu'il y a eu une hausse énorme aussi des matériaux de construction. Et c'est vrai qu'il y a un ralentissement de la construction aujourd'hui en France qui est lié aussi à ce paramètre. Je voudrais qu'on entende Aïcha qui nous appelle d'Orléans et qui est auxiliaire parentale. Bonjour Aïcha.
Bonjour Estelle, bonjour à votre équipe du jour.
Oui, bah écoutez, voilà, tout le monde est là, Aïcha. Vous voulez réagir sur ce débat? Allez-y, Aïcha.
Bah oui, alors moi je suis pour la réquisition des logements. Parce que déjà, il n'y a pas assez de logements sociaux, parce qu'il y a beaucoup de communes qui ne respectent pas les 25%, je crois, de
l'aide sociale.
Moi, je le vois dans le Loiret, voilà. Et puis moi, ce qui me choque quand je reviens le soir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dehors.
Oui, qui sont dans la rue, vous voulez dire?
Oui, qui dorment dans la rue. Et il y a plein de logements qui sont libres. Il y en a plein qui sont libres.
Oui, mais ces logements, c'est ce qu'on disait, ils appartiennent à des gens qui les ont payés. C'est ça le problème.
Oui, ça, je conçois. Mais quelquefois, il y a des logements qui peuvent aussi appartenir... il y a peut-être des locaux désinfectés, par exemple, qui appartiennent à personne.
Oui, je suis d'accord. Et puis alors, Mathilde, il y a peut-être une idée aussi. Tu parlais tout à l'heure de ces logements qui étaient inutilisés et qui étaient désaffectés, etc. Et pas en bon état. L'État pourrait aussi dire, voilà, vous avez un logement qui est vide. Nous, on s'engage, l'État, à faire une rénovation thermique, de ce bâtiment, de cet appartement, de le remettre en état. Et en échange, vous hébergez pendant un temps donné une personne. C'est-à-dire inciter plutôt que
mais punir. Ça se réfléchit, mais pour être honnête, il y a des systèmes alternatifs aussi qui existent. Moi, j'ai un ami qui a fait un accord un peu de ce type-là avec un propriétaire en lui disant « Ton bien est à l'abandon, il est en train de se dégrader. » Parce qu'en vrai, quand c'est vide, ça se dégrade au fur et à mesure du temps. « Laisse-moi y habiter et je fais les travaux au fur et à mesure du temps. » Et c'est un accord qui marche très bien. Est-ce que l'État pourrait faciliter ce genre de processus-là? Est-ce qu'on pourrait imaginer travailler sur ce que tu décris? Pourquoi pas? Moi, je trouve ça plutôt malin.
Mais... Après, le problème, c'est que sur un, effectivement, si tu as affaire, par exemple, à un SDF, ça va être compliqué pour lui, peut-être, de faire des travaux. C'est ça aussi.
C'est pour ça que là, on parle de sujets différents. Mais je pense qu'il y a, la question des sans-abri et des réquisitions où là, on arrive à un niveau, je veux dire, d'indécence, où la violence de la propriété absolue aussi, elle est problématique. Un droit n'est jamais absolu dans le droit français. Il y a toujours des limites. Hein.
Alors, on va terminer avec Jean-Charles, l'immobilier de Lucenay.
Sauf de l'homme.
Dans le Rhône, il est gestionnaire de patrimoine. Donc, a priori, il a des clients plutôt fortunés qui ont plusieurs appartements. Bonjour, Jean-Charles.
Oui, copain. Bonjour.
Jean-Charles, vos clients, ils ne verraient pas ça d'un très bon œil, la réquisition de leur logement, j'imagine.
Évidemment que non. Non, bien sûr que non. Pour la simple bonne raison qu'effectivement, il ne faut pas forcément être hyper riche pour avoir un appartement. Et bien évidemment, en fait, à partir du moment où vous commencez à avoir, vous achetez un appartement pour avoir une retraite derrière, automatiquement, si ces gens-là, vous prenez un appartement et puis vous le donnez à quelqu'un en fait qui ne va pas payer ses loyers, ça va devenir problématique. Donc, automatiquement, oui, c'est pas forcément une très bonne idée, oui.
Oui, mais ça dépend, parce que si l'État paye à la place... Est-ce que, par exemple, vos clients fortunés, si l'État garantissait le paiement d'un loyer et la réfection du logement, si jamais il y avait problème, est-ce que ça pourrait les pousser à louer?
Pourquoi pas, oui. Mais est-ce que ça sera fait?
Oui, c'est ça. En fait, on en revient toujours
au même. On dit si c'est fait, si une loi passe en ce sens, avec garantie pour le propriétaire qu'on lui restitue son bien dans l'état où il l'a laissé et que les loyers sont assurés sur les fonds publics, ça ouvre une porte. Ça ouvre une porte, c'est le cas de le dire.
Mais bien sûr.
C'est M. Pierre Rézouvé. Collègue, c'est
un... Oui, oui.
Sincèrement, vous croyez sincèrement que ça va être fait, ça?
Ah, voilà, ça c'est une bonne question. Très bonne question. Mais imaginez qu'un gouvernement dise, voilà, on est dans une situation intenable pour une partie de la population, on prend ce... Et on a bien fait le quoi qu'il en coûte, c'est une forme de quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, on garantit aux propriétaires, ouvrez, louez-les, l'État est là pour vous garantir. Si vraiment on a l'assurance, parce qu'ensuite il y aura évidemment une commission de constat pour savoir si l'appartement... Bah, imaginons qu'il y a un gouvernement qui a vraiment cette résolution politique. Est-ce que vous pensez que ça peut ouvrir des portes, sans jeu de mots?
Ah, écoutez, sincèrement, vous écoutez ce matin, là, j'écoutais aussi également les grandes gueules.
Ouais.
Mehdi Ghezzar, en fait, il est exactement dans le même cas. Enfin, aujourd'hui, vous avez des gens, les trois quarts des propriétaires aujourd'hui d'appartements comme ça, sont des gens, en fait, qui s'endettent à fond et qui doivent payer, par contre, parce que les banquiers, ils n'attendent pas de savoir s'il faut...
Alors voilà, il y a ceux qui sont en train de rembourser, ceux qui ont déjà... Et, voilà, vous voyez, c'est...
Mais non, mais les trois quarts des gens, en fait, quand vous allez loger dans un appartement. Si ces gens-là sont pas foutus en fait de rembourser votre prêt, bah, automatiquement en fait c'est terminé quoi. Vous êtes vous rentrez
dans... Il faut une garantie.
Il faut une garantie.
Mais moi je suis persuadée que s'il y avait une garantie d'État, les gens accepteraient de louer moins cher parce que tu sais que tu fais une bonne action et quelque part t'es heureux de la faire. Et
bien sûr.
Mais il faut une garantie de l'État. C'est une option. C'est pas possible.
Que j'aime beaucoup d'ailleurs.
C'est gentil.
Mais en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que les trois quarts des gens qui font ça, ils font ça aussi pour leur retraite.
Bien sûr, non, mais c'est pas des gens, c'est pas forcément des riches en plus. Attention,
ils ont déjà des prêts également en fait pour leur résidence principale.
C'est ça.
Ça sous-entend quoi?
Ils peuvent pas se permettre.
Vous êtes déjà très endettés, quoi. Aujourd'hui, on sait pertinemment que j'ai 42 ans, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la retraite, moi, j'y crois pas.
Après,
je veux pas rentrer dans
un détail qui est un peu.
Du passage, j'ai que 4 ans de plus.
Bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est un problème démographique.
J'ai compris.
La retraite, c'est...
Oui, non, mais là, on est dans un autre débat. Mais en tout cas, ce qu'on comprend...
Mais il faudrait aller loger quand même.
C'est qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de garantie, vos clients fortunés, ils préfèrent laisser leur logement vide, effectivement, que de louer et de risquer de ne pas être payé à la fin du mois. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et merci à Eddy Jacquemart d'avoir été notre invité sur ce débat. Alors, on attend avec impatience le résultat du sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi, Rémi.
C'est le nom qui l'emporte assez majoritairement. Faut-il réquisitionner pardon, les logements vacants? C'est non pour 60% de ceux qui sont prononcés sur la réseau.
C'est pas écrasant.
Non, mais bon.
C'est pas écrasant, mais
moi aussi.
Les propriétaires ont peur.
Oui, voilà, mais c'est plutôt, franchement, 60% de non, c'est pas énorme.
Ouais,
et,
pas énorme.
Et ça veut dire que les mentalités certainement évoluent.
Il y a 40% de oui. Est-ce qu'il y a 40% de oui? Il y a 40% de oui.
C'est pas mal. Ouais.
Dans un instant, Nicolas Trénaud viendra sur ce plateau RMC, s'engage pour vous. On va revenir sur l'affaire des victimes de l'amiante qui n'arrivaient pas à partir en pré-retraite. On vous en avait parlé il y a quelques semaines. Il y a du nouveau dans ce dossier. On espère que ce sont des bonnes nouvelles. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
14h32 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi. Et 14h32, c'est l'heure à laquelle on vous aide. Chaque jour, voici RMC s'engage pour vous.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Et on est aujourd'hui avec Nicolas Trénaud. Et Nicolas, bonjour. Le vendredi, vous aimez bien nous donner des nouvelles, des enquêtes en fait, que vous avez menées il y a quelques semaines. Et là, on reparle des victimes de l'amiante qui n'arrivaient pas à partir en pré-retraite. Ça nous avait beaucoup ému, ce dossier.
Oui, et je vais vous rappeler rapidement la situation. Des milliers de travailleurs ont manipulé de l'amiante ou ont respiré des poussières d'amiante avec un risque à vie de tomber gravement malade. Beaucoup sont décédés. Et donc, en guise de réparation, l'État octroie à ces travailleurs le droit de partir à la retraite plus tôt. Mm-hmm. Sauf que l'administration ne parvient plus à respecter le délai normal de 2 mois pour traiter ces dossiers. Nous l'avions révélé en décembre. À l'époque, 144 dossiers étaient en retard. Aujourd'hui, c'est légèrement mieux. Il en reste 82, dont le dossier d'Alain qui nous a contacté après notre première enquête. Il nous a écrit. Cette victime de l'amiante travaillait sur les chantiers navals du Havre dans les années 80. Ça fait un an qu'il devrait être en pré-retraite. Mais l'administration bloque son dossier sans raison.
Moi, j'ai envie de profiter de ma retraite en sachant que j'ai potentiellement une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ça crée, en vieillissant, un sentiment d'oppression, puisque on y pense forcément. Et puis, on a l'expérience de ceux qui sont déjà plus là, quoi. Et à partir du moment où on ne peut pas accéder au dispositif qui permet de réparer ce préjudice, c'est complètement, je pourrais parler d'immoralité. J'estime que c'est un déni de droit.
Alors l'administration ne répond pas à Alain, et nous on sait que normalement quand RMC s'engage pour vous, appelle l'administration, l'administration répond. Est-ce que ça a été le cas cette fois-ci ?
Eh oui, comme souvent. Et on a découvert en même temps qu'Alain que son dossier n'était pas complet. L'assurance maladie assure lui avoir écrit il y a 8 mois, mais Alain n'a jamais reçu ce courrier et personne n'a répondu à ses nombreuses relances. La situation aurait pu durer encore longtemps, mais nous avons obtenu des engagements. L'assurance maladie devait le contacter aujourd'hui, ils ont tenu parole. Alain a reçu ce matin son admission au dispositif et la liste des pièces manquante. Il retrouve espoir, il est très content, je l'ai eu au téléphone. Il va pouvoir entamer les démarches pour transmettre sa petite entreprise et partager plus de temps avec son fils comme il le voulait.
Ah, c'est une bonne nouvelle ça, Nicolas Trénaud. Alors, notre auditeur qui nous avait signalé un problème en décembre, hein, c'est grâce à lui, à cause de lui qu'on a fait ce sujet. Est-ce que lui aussi, il s'appelait Thierry, hein, je crois, est-ce qu'il a obtenu gain de cause ?
Thierry, nous avons eu de ses nouvelles cette semaine, exactement. On avait débloqué son dossier en urgence, il avait respiré longtemps sans le savoir de la poussière d'amiante dans la papeterie où il était ouvrier. Il a pu partir en pré-retraite cette semaine. Super. Il a arrêté de travailler mardi. Il peut enfin profiter de la vie et de chaque seconde en famille.
Ce week-end, on va aller manger avec mon ami pour fêter justement le fait que je ne travaille plus. On a plein de projets en fait. Moi, j'en suis sorti, je suis bien content, mais je pense à tous les autres.
Et tous les autres dont il parle, qui ont des dossiers donc hors délai, l'assurance maladie promet de traiter leur situation en priorité. Si ce n'est pas le cas, l'association de défense des travailleurs de l'amiante, l'Andeva, se réserve le droit d'entamer des poursuites. Cette association demande au ministère plus de personnel pour traiter les dossiers de l'amiante, mais ils n'ont pas obtenu de réponse. Et les ministères de la Santé et du Travail ne nous ont pas répondu non plus sur ce point.
Oui, parce qu'on est vendredi et donc ils sont déjà partis en vacances. Merci Nicolas Trénaud. En tout cas, ce sont de bonnes nouvelles pour ces auditeurs qui vont pouvoir partir en pré-retraite. Et puis bravo, hein, parce que c'est encore un dossier résolu par RMC s'engage pour vous, comme la plupart des dossiers que vous traitez. Merci beaucoup Nicolas Trénaud. Tous les jours RMC s'engage pour vous, c'est aux alentours de 14h30 dans l'émission dans Estelle Midi. Et puis vous pouvez retrouver également cette chronique en podcast sur rmc.fr, sur l'application RMC et sur vos applications de podcast. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Ça, c'est les 25 ans de la sortie d'Harry Potter.
Oui, c'est ça.
Ça ne nous rajeunit pas. Ah, alors, et puis, on vous offrira également une semaine de vacances dans Estelle Midi. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Dans un instant, il y aura les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, qu'on commentera avec Rémi Barré, Perico Légas, Mathilde Himmer et Yaël Mellul. Mais tout de suite, grand moment dans l'émission, puisque c'est la dernière fois de la semaine qu'on vous offre, Rémi, des vacances.
Vos futures vacances, peut-être à la mer, à la montagne ou à la campagne, une semaine chez Bellambra Club, en famille ou entre amis.
Et aujourd'hui, eh bien, nous n'avons pas un gagnant, mais une gagnante. Elle nous appelle de Béziers et elle est employée en station-service. C'est Sonia. Bravo, Sonia.
Oui, bonjour.
Ah, bah Soudain, vous avez gagné un voyage, une semaine de vacances. Parce que je vous sens pas. Bah, oui, je vous sens pas heureuse, quoi.
Si, excusez-moi. Un peu,
tu croyais
pas, je croyais que c'était une blague.
Mais non, bah, non, vous êtes sûr. Non, non, vous êtes dans Estelle Midi et vous avez gagné une semaine de vacances à la mer, à la campagne ou à la montagne.
Sauf que vous allez à Arques et c'est pas très loin de chez vous en plus.
C'est la première fois en plus que je gagne un jeu.
Et ben voilà, et ben écoutez, c'est un beau cadeau en plus. Hein. Vous avez bien fait de jouer, Sonia. Vous partez avec qui?
Déjà avec mon mari. Et après, je
suis
devant
à
ma fille.
Et ben super. Oh bah là je vous sens émue, Sonia. Oui. Oh là là. Et puis je vous ai brusqué en plus au début. Écoutez, je sais plus quoi vous dire. En tout cas, on vous souhaite de bonnes vacances, Sonia. Je suis sûre qu'elles seront géniales, ces vacances. Et on est hyper heureux dans Estelle Midi et sur RMC de vous offrir ce séjour. Profitez-en bien avec votre enfant et votre mari. Sonia, bonnes vacances à vous. Et on continue d'offrir les séjours aujourd'hui, Rémi.
Oui, vous continuez de jouer en envoyant le mot vacances par SMS au 732-16. Vacances par SMS au 732-16.
RMC. On va pas mieux, c'est au Cap-Dac.
Les immanquables.
Et on va commencer tout de suite, Rémi, avec les confidences du jour qui ont fait beaucoup, beaucoup parler aujourd'hui.
Ouais, confidences de l'ex-premier ministre Édouard Philippe, interrogé sur BFM TV, sur son apparence physique transformée et sur sa santé. Il s'est confié hier, on l'écoute.
Qu'est-ce qui m'arrive?
Expliquez-nous.
Voilà ce qui m'arrive.
Vous avez perdu vos sourcils.
J'ai perdu mes sourcils et je crois qu'ils ne reviendront plus. Et ma barbe est devenue blanche et elle tombe un peu et mes cheveux tombent aussi.
La moustache aussi.
Oui, la moustache est partie. Je ne sais pas si elle reviendra, mais ça m'étonnerait. Je suis atteint de ce qu'on appelle l'alopécie. Une alopécie, c'est quelque chose qui peut se déclencher très jeune ou très vieux. Ça n'est ni douloureux, ni dangereux, ni contagieux, ni grave. Ça ne m'empêche pas d'être extrêmement ambitieux pour ma ville. Ça ne m'empêche pas d'être extrêmement ambitieux pour mon pays. Et je pense que notre pays a besoin d'ambition.
Ouais, il a précisé, hein, c'est ni dangereux, ni contagieux, ni grave, mais ça peut être lié au stress, ce qu'on lui a dit ses médecins. Et en tout cas, c'est la seconde maladie auto-immune que déclare l'ex-premier ministre, l'alopécie, après déjà avoir confié qu'il était atteint de vitiligo.
Voilà, avec une maladie qui est courante. Hein.
Ouais.
Perico Legas, est-ce toujours ces confidences? Parce que c'est vrai que, après, on va se dire la vérité, ça fait quand même plusieurs mois qu'on voit Édouard Philippe et qu'on s'étonne effectivement de sa transformation. Physique, il a eu raison d'en parler hier.
Oui, vu la façon dont ça se voit. Déjà quand il avait commencé à blanchir sa barbe, on disait qu'est-ce qui se passe. Là, on est dans une pathologie très claire, très visible, même si elle n'est pas grave. Il a répondu à deux questions politiques. Ça ne retire rien à mon énergie, mon ambition pour ma ville et pour le pays. Ça veut dire qu'il maintient sa capacité à être candidat à la présidence de la République en 2027. Alors. Le problème, c'est si c'est dû au stress, si Matignon lui a donné ce stress-là, je préfère le prévenir que la présidence de la République sera encore plus stressante. On ne sait rien, je dis ça sur un ton un petit peu ironique. Non, le problème, ce sera, est-ce que, ça serait jamais vu, est-ce que l'état physiologique, je dis pas physique, est-ce que l'état physiologique, imaginez qu'il soit totalement imberbe, voilà, bon, il serait chaud, voilà. Est-ce que ça pourrait remettre en cause, parce qu'on sait aujourd'hui qu'une carrière politique à la présidence de la République implique une certaine physiologie, une certaine esthétique. Hein. Giscard en a profité, Macron en a profité, Genebo. Est-ce que le fait d'être un tout petit peu, entre guillemets, défiguré ou altéré, est-ce que ça pourrait remettre en cause son engagement politique et la confiance que les Français pourraient lui faire? Je pense pas. Lui peut décider à un moment donné, et je sais qu'il en parle, en disant, voilà, si ça prend des proportions handicapantes, sur le plan physiologique.
Il a l'air très en forme hier. Hein. Enfin, franchement, j'ai vu une interview.
Intellectuellement, il n'y a rien. Est-ce que le fait de ressembler à un poisson lune, quelque chose comme ça, à un moment donné, peut dire, j'arrête. Non, mais il en rirait. Il
se chauffe dans ce pays.
Parce que, attendez, la transformation physiologique est tellement rapide.
Oui, il a été transformé.
J'allais dire, son élégance physique a participé de son succès politique auprès des femmes, à un moment donné. Et c'est très bien.
Mais non.
Et moi, je peux vous dire que les ministres qui sont.
On va dire, il portait beau, ok.
Attendez, une femme politique élégante et tout, ça passe quand même.
Non, un mec parce qu'il est beau gosse.
Tout compte. C'est
non,
une,
mais je suis pas.
C'est une campagne. Oui, c'est, oui, pourquoi on fait tout à la télévision? Alors, bah, on fait tout parce que ça compte, l'esthétique, la présence, enfin, le charme.
On n'est pas tous beaux,
le charisme. Le charisme, bah, tout ça. Le charisme participe aussi de ta physique, évidemment. Bon, voilà. Bon. Donc, la question est-ce qu'à un moment donné, si ça va trop loin dans une dégradation pathologique, est-ce que ça peut mettre en cause sa carrière politique? Moi, je pense pas. Mais allez,
c'est un élu. Est-ce que ça peut influencer le vote des Français?
J'espère pas, parce que, ça voudrait dire que l'image est importante à ce point.
Ah, bah, l'image est
ah oui, elle est importante. Oui, hélas. Elle a toujours été.
Oui, hélas.
Si Kennedy face à Wilson, pas tous les politologues ont analysé la victoire de.
Édouard Philippe hier, il a fait une très longue interview pour soutenir la réforme des retraites, quand même, le même jour qu'Elisabeth Borne. Et aujourd'hui, la majorité des commentaires sur son intervention, qui a duré, je crois, son interview avec Bruce Toussaint, a duré, je crois, une heure à peu près. On parle de son physique.
Bah donc tu vois que ça quoi là.
Bah oui, mais c'est notre problème à nous alors d'avoir choisi ce sujet.
Oui,
alors
oui,
parce qu'il aurait fallu parler peut-être davantage du fond. Voilà, de ce qu'il a dit sur la réforme des
retraites. Tout à l'heure t'as parlé juste de son manque d'empathie. Donc tu vois bien que
Ça c'est le fond, le manque d'empathie. Parce qu'on fait
de
l'empathie, la bienveillance, l'amour des autres, ça veut dire qu'on est dans un esprit de solidarité, et ça veut aussi dire qu'on fait normalement de la politique parce qu'on aime les gens.
Mais on est d'accord. Mais n'empêche que ça compte.
On est vraiment dans l'esprit de la politique.
N'empêche que ça compte.
Là, on est sur le physique.
Mais ça compte.
Tu sais que ça compte.
Ça compte.
Après, tu sais très bien.
Mais c'est dommage.
Oui, on ne dit pas le contraire. Mais c'est un fait.
Évidemment, ça.
C'est un fait.
Ça compte. Mais je te dis pas que c'est bien.
Oui.
C'est peut-être malheureux. Mais il est évident que ça compte, c'est sûr. Mathilde Dimard, vous pensez que ça peut remettre en cause sa participation à l'élection présidentielle en 2027?
Moi, je pense que oui. Je pense que beaucoup de gens ont voté pour Emmanuel Macron la première fois en 2017 parce qu'il était jeune et que ça renvoyait une image de quelqu'un qui va faire des choses.
Modernité.
Bon, bah, on a un peu tous été déçus. On peut le regretter comme le regrette Yaël. Moi, c'est pas pour cette raison-là que je voterai pas pour Édouard Philippe. Parce que la retraite à 67 ans et compagnie m'arrêteront avant. Mais oui, évidemment que je pense que ça compte parce que ça donne une image de quelqu'un qui est en train de perdre en puissance, en réalité. C'est ça que ça renvoie, et je pense que ça compte dans l'image.
Alors qu'il perd aucune puissance intellectuelle, aucune capacité intellectuelle, évidemment. La hausse du jour.
L'assurance maladie propose d'augmenter le tarif de base de la consultation médicale, qui passerait de 25 euros à 26,50 €. Hausse de 1,50 €, vous avez bien entendu.
Il réclamait 25 euros.
Les syndicats de praticiens libéraux considèrent cette offre comme une provocation à un mois de la date butoir de la fin des négociations. Agnès Giannonetti, présidente de MG France, première organisation chez les généralistes, rappelle notamment qu'il réclame au moins 30 euros pour rattraper l'inflation depuis le passage à 25 euros en 2017.
Alors, c'est sûr que quand on réclame 30, normalement on s'attend à avoir 15. Quand on a 1,5, là ça va être vu comme une provocation quand même, Perico.
Je ne sais pas qui a suggéré cette somme, mais c'est énorme. On aurait dû faire 25,30 €. Vous voyez, 30 centimes, vous rendez compte. Non mais c'est un foutage de gueule sans nom. Voilà. Alors je sais que 50 c'était énorme, mais on avait compris qu'il demandait 50 pour avoir un peu moins. Voilà, on peut au moins...
Comment
alors,
tu faisais 10
c'est... Non mais je vois, ça c'est le truc des narcs, 26,50. Le mec a dû plancher 4 jours, il en s'engueulant avec ses collègues, qu'on va dire 26,70 ou 27,30. On dit 28 à la rigueur, on donne 3 euros de plus, voilà, 30, voilà. En plus, c'est remboursé par... Alors oui, c'est quoi qu'il en coûte. C'est pas...
Mais
voilà.
Peut-être que les Français auraient été prêts à payer 1,50 € de plus
pour un médecin. Dans l'État où est la médecine générale, ils sont prêts à payer 5 euros de plus sans aucun problème.
Ah oui, ça c'est clair.
Sans aucun problème. Et les pauvres sont...
Et les pauvres sont... 1,50 €.
C'est ça. Non, mais c'est terrible. C'est du foutage de gueule intégral.
Quel mépris. Quel mépris.
Voilà, c'est du mépris. Et puis c'est pas ça qui va aider à apaiser les esprits à l'aube de nouvelles manifestations. Parce que, encore une fois, je veux dire, les manifestations, c'est évidemment l'objectif principal, la ligne de mire.
Les médecins ne partent pas à la retraite à 64 ans, ils partent souvent à 75 ans.
Mais justement, il y a un objet central, un objectif évident, c'est les 64 ans de la retraite, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a le pouvoir d'achat, il y a l'inflation, il y a une colère qui explose à tout niveau et les médecins sont très très en colère et je ne crois pas que ça va beaucoup aider à les calmer, cette histoire.
Fallait les augmenter plus ou pas les médecins, Mathilde Dimard?
En tout cas, cette proposition, c'est du foutage de gueule.
Ah ouais,
je veux dire, à un moment, moi ce qui me choque encore une fois, c'est que quand ce gouvernement et on parle des ultra riches, c'est l'ISF, on l'enlève, la flat tax, elle est mise en place. Pour le CAC 40, c'est la CVAE, c'est le CICE et compagnie. Et dès qu'on parle des petits gens, on leur propose de travailler 2 ans de plus, et d'avoir des systèmes de santé et de services publics qui marchent plus.
Moi, on parle des médecins, des petits gens. Non, mais avec tout.
Bah, désolé, mais.
Les galères, les galères. Mais
les gens du service public en général.
On accepte des 7% sur l'autoroute, des gens qui se sont gavés, on va leur donner 10 milliards en plus. Et là, on dit à 5 ans.
C'est honteux. Les médecins ne seraient pas autant à demander autant de choses si l'hôpital fonctionnait, si les infirmières étaient.
Voilà. Bien sûr.
Donc c'est un système qui tient ensemble.
Ils sont essentiels.
Ce système-là, aujourd'hui, il est en train de s'effondrer. Et franchement, moi, je le dis, hein, si la gauche était au pouvoir à un moment où l'électricité est en train de monter comme ça, qu'on a des taux d'inflation monstrueux, que l'école ne marche plus, que la police ne marche plus, que rien ne marche, mais qu'est-ce qu'on n'entendrait pas ?
Elle a été.
Qu'est-ce qu'on n'entendrait
pas ? On l'a entendu.
Là, maintenant, c'est Bruno Mathilde. Le Maire qui vient tranquillement.
Elle l'a été il n'y a pas très longtemps et on l'a entendu.
Elle a été pendant quelques années.
Je ne vais pas te dire.
Il y a 1 million de personnes dans la rue. Voilà.
Je ne vais pas te dire qu'elle a participé à l'aggravation de la situation, mais j'en suis pas loin.
Ah, c'est un élément. Voilà, c'est une pièce.
Le refus.
Sans animosité.
Taisez-vous, le refus du jour.
Clarisse Kremer, ne décolère pas. Elle est maman d'une petite fille depuis novembre 2022. Et la skippeuse, révélation du dernier Vendée Globe, après sa 12e place, devait concourir dans la catégorie IMOCA lors de l'édition 2024 du Tour du Monde en solitaire et sans escale. Mais face à un risque de non-qualification lié au nouveau règlement de la course, son sponsor, c'est ce qu'il dit en tout cas Banque Populaire, a décidé de changer de skipper. Il est vrai, elle le reconnaît elle-même, que la navigatrice, du fait de sa maternité, n'a pas encore pu participer aux nouvelles épreuves de qualification. Donc elle le reconnaît, mais elle parle d'une décision hâtive et affirme que c'est son nouveau statut de maman qui a poussé son sponsor à l'écarter.
Ah mais le sponsor, elle l'a dit hein, d'ailleurs. Le sponsor Banque Populaire, il dit en fait, elle ne pourra pas revenir au haut niveau en fait à temps,
c'est
et
ça.
Donc elle pourra pas faire assez de distance de qualification. Et voilà. Alors que le skipper qu'il avait remplacé pendant sa maternité a déjà commencé lui en fait à concourir et donc à accumuler des miles. Mais
donc c'est, ça, elle le reconnaît, mais elle dit que c'est un peu hâtif comme décision et qu'elle aurait eu le temps de se rattraper.
Et la ministre des Sports a dit qu'elle espérait quand même qu'elle trouve un sponsor pour se vendre des Globes Péricot.
Non mais j'ai pas compris, elle doit coucher à bord.
Mais non, elle a accouché en novembre.
Mais c'est à se demander si elle doit coucher à bord. Ils ont fait du bateau ces gens-là, mais il y a aucun rapport. Qu'est-ce que c'est que ces critères de
Mais le rapport, c'est qu'elle elle risque de pas faire. En fait, elle risque de pas pouvoir se qualifier. Donc Banque Populaire qui a mis des millions dit.
Qu'est-ce que c'est que ces paramètres de qualification ?
Ah ben c'est ça.
C'est une navigatrice, c'est une marine. Voilà.
Elle-même dit que effectivement, elle n'a pas encore couru le nombre de kilomètres, de milles nécessaires pour être qualifiée, mais qu'elle a encore le temps de le faire et qu'on l'écarte avant même qu'elle ait pu essayer.
Ça, c'est des gens qui font la trottinette, à mon avis.
On prend pas le risque. C'est scandaleux pour vous, Mathilde.
Pour moi, c'est un peu comme pour la retraite. C'est-à-dire qu'on fait des règlements avec des critères sans penser qu'on peut avoir des critères différents quand il s'agit de femmes. Et donc, c'est les femmes qui payent à la fin.
Fait ce qu'elle veut.
C'est un peu scandalisé. J'espère que ça changera et que les sponsors vont revenir sur cette décision et qu'elle arrivera à faire le nombre de trimestres de qualification qu'elle doit.
C'est la femme qui a le record du Vendée Globe le plus rapide, en fait, pour une femme.
Ah mais c'est scandaleux, elle est pénalisée parce que c'est une femme et parce que c'est une maman. Voilà, c'est ça les raisons en réalité, voilà. Et qu'on lui donne
mais
pas
tu
en
peux
fait,
pas faire un, tu peux pas faire des critères différents pour les femmes et les hommes, c'est un sport qui se court sur les mêmes bateaux, les mêmes distances.
Oui, manifestement il aurait fallu.
Oui, mais si un homme, alors c'est pas du tout la même chose, mais si un homme se blesse par exemple, il peut pas faire ses 1000 de qualification. Et il sera pas skipper non plus.
Et celle, tu peux pas comparer.
Je sais bien, mais tu peux pas faire un.
Maman.
Oui, mais alors dans ce cas, tu fais 2 courses différentes. Tu fais une course pour femmes et une course pour hommes. Mais si tu décides de faire une course qui est unisexe, c'est-à-dire avec les hommes et les femmes, tu ne peux pas avoir un règlement différent.
Peut-être
en fait
que le règlement est absurde et qu'il n'y a pas besoin d'avoir autant de miles.
Mais t'as raison, c'est absurde.
C'est ça qu'il faut changer.
En tout cas,
la réalité, je pense, c'est que ces sports ont beaucoup été réalisés par des hommes jusqu'ici, et donc tous les règlements, tout ce qui
est fait pour les hommes,
il faut s'adapter.
Enfin, en tout cas, entre la retraite et puis les courses de bateau, il fait pas bon avoir des enfants, des femmes avec des enfants en France. Hein. Parce qu'on est pénalisé, hein, je peux vous dire.
Ah ben les femmes sont pénalisées, mais c'est pas une nouveauté, Péricot. C'est bien que tu le découvres, tu vois.
Péricot voilà. Même dit on est pénalisé.
Oui. Il le savait pas.
Je participe à la gestation d'ailleurs. Vincent et moi, si on est pris pour le radar thermique, on compte pour 4 tous les deux. Ils nous prennent avis à la population qui a besoin de.
En fait, personne ne comprend rien à ce que vous dites. On est vendredi.
Si, ils ont tous compris. Il y a que vous qui comprenez pas. Ils ont tous compris.
Je vais arrêter de faire venir le vendredi. Vous êtes inaudible. En revanche, lui, il est là aussi le vendredi. C'est Vincent Moscato. Le super Moscato Show. Ça va, Vincent ?
T'as compris ?